Relever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Eric.
Bonjour Bernard, comment allez-vous ?
Mais ça va. Aujourd'hui, vous savez, on va faire un grand écart. On va aller de l'Ariège vers le Tarn, ou plutôt du Tarn vers l'Ariège. Et on va mettre en face à face catholiques et protestants.
Bon, ça va rappeler des souvenirs, mais très anciens.
Voilà, très anciens, oui. Donc on va parler aujourd'hui du temple de Mazamet. Mazamet, vous le savez, est une commune de notre pays. Elle est située dans le département du Tarn, au centre de la région Occitanie. Proche de l'Aude de l'Hérault, au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, la ville se situe à mi-chemin entre Toulouse et Béziers. Elle est la capitale du majestueux massif de la Montagne Noire. Aujourd'hui, on prévoit du vent à 100 km à l'heure. De tout temps, Mazamet est une terre convoitée. Ainsi, je connais les Visigoths, vous voyez, et les Visigoths sont les peuples qui y défirent les premières fortifications. Plus tard, les Cathares et les Huguenots y trouvent un refuge pendant la terrible guerre de religion. Alors, j'aime pas le mot cathare parce que c'est un mot qui n'est pas vrai. Il vaut mieux dire les Albigeois.
Les Albigeois.
C'était les Albigeois. La paix revenue, c'est par les industries que l'on connaît Mazamet. Au XVIIIe siècle, les tissus de qualité qui sortent des manufactures portent notamment le nom de Mazamet. Et au XIXe siècle, Mazamet devient le centre mondial du traitement des peaux de mouton, en créant une industrie novatrice. Le délainage, très vite associé à la mégisserie. Jusqu'au milieu des années 80, cette commune atypique est un centre industriel et commercial international de premier plan. Aujourd'hui, elle a perdu un peu de ce lustre.
Oui, effectivement. Alors, l'église Saint-Sauveur, pour la petite histoire, et la grande, au XVIIIe siècle, la région de Mazamet, qui était jusque-là en majorité protestante, connaît une arrivée importante d'une population catholique rurale, due au développement de l'activité textile qui évidemment attire les gens pour trouver du travail. L'église Saint-Sauveur est construite entre 1740 et 1767 sur la place du Plot, où avait déjà existé un temple protestant. L'édifice est béni le 13 novembre 1761, mais ce n'est qu'en 1767 que les travaux furent terminés. Pendant la Révolution, Saint-Sauveur cessa d'être une église pour devenir ce qu'on a appelé à l'époque un temple de la raison, et ce n'est qu'en 1802 que Saint-Sauveur fut rendu au culte catholique. Jusqu'en 1869, la commune n'avait qu'une seule paroisse qui compta tout de même jusqu'à 5000 fidèles, et donc une seule église, Saint-Sauveur.
On va parler du décor, si vous voulez, de cette église.
Oui, parce qu'il est magnifique.
Cette église massive à la face sobre s'apparente au style baroque italien du XVIIe siècle, grâce à la polychromie, et à ses intérieurs, intéressant. Son clocher octogonal, très commun ici en Languedoc, à deux étages, héberge notamment quatre cloches.
Et parmi ce riche décor, on trouve aussi des peintures murales datées de 1863 et réalisées par Antoine Pote, ainsi que des vitraux réalisés par Bergès, maître verrier de Toulouse, Bernard.
Et en 1954, l'artiste peintre André Régagnon dessine et peint les fresques derrière l'autel. Le baptistère est quant à lui réaménagé dans les années 1950 et décoré sur le mur du fond par une mosaïque représentant le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Son centre est creusé en bassin, au milieu duquel est placée une vasque en marbre aux nuances vertes et brunes, veinée d'ivoire.
Notons également sur les murs des bas-côtés de l'église qu'il est représenté la procession des saints et des saintes qui s'avancent vers le cœur où est glorifié le Christ. Ces peintures sont des œuvres marouflées, c'est le terme qui désigne cette technique, c'est-à-dire peintes d'abord sur toile, en atelier, avant d'être collées au mur.
Alors, l'hôtel, lui, est habillé d'un marbre beige et brun et est installé depuis 1761. Il a subi de légères retouches pour mettre en conformité avec Vatican II. On n'aurait pas dû y toucher, mais c'est comme ça. Des reliques sont scellées dans la table, mais elles n'ont pas pu être identifiées.
Et dans la chapelle du Saint-Sacrement se trouve une statue d'une Vierge noire à l'enfant, Notre-Dame du Bonheur. Elle est en bois doré, offerte dans les années 50 par le sacristain Pierre Miaille. Elle proviendrait d'une église située dans le Lot.
Enfin, l'église abrite un véritable orgue d'exception, construit par Cavalier Coll, l'un des plus importants facteurs d'orgue du 19e siècle.
Alors on peut préciser, pour ceux qui voudraient se faire une idée, il y a un Cavalier Coll à Saint-Cernin, Toulouse, la basilique Saint-Cernin, un des plus beaux orgues de France. Pour revenir à Saint-Sauveur, aujourd'hui le beffroi de l'église et les peintures intérieures sont en péril malheureusement. Il devient donc urgent d'agir pour la restauration de cet édifice religieux qui est particulièrement important pour le territoire, vous l'aurez compris.
Soucieux de son patrimoine, la commune de Mazamé souhaite mettre en avant son patrimoine religieux emblématique, précieux témoin de l'histoire locale. Avec ce projet, ce patrimoine religieux sera restauré et ensuite valorisé pour les générations futures. Vous pouvez bien sûr soutenir ce projet en faisant un don sur le site toujours le même de la Fondation du patrimoine, en mettant « Temple de Mazamé ». Alors, temple, église, il y a deux temples à Mazamé en plus qui sont actuellement en restauration.
Voilà donc pour le temple de Mazamé.
Et donc, voilà, même là, vous voyez, il y avait déjà antinomie entre protestants et catholiques.
Oui.
Mais là, on va aller plus fort maintenant avec une église qui est située à Tarascon-sur-Ariège, Notre-Dame de Sabar, et qui, paraît-il, a été construite par Charlemagne.
Eh bien, dites donc c'est fort ancien ce site.
Dans la chapelle Notre-Dame de Sabar est située au cœur du terroir pénéen de Sabartès, à Tarascon-sur-Ariège, bien sûr en Occitanie. Et cette commune de 3000 habitants est un véritable centre industriel au confluent de l'Ariège et du Vic-de-Sceaux.
Alors l'histoire remonte à des temps très anciens, puisque vous avez parlé de Charlemagne. Dès le Moyen-Âge, Tarascon-sur-Ariège était déjà un centre commercial important géré par des consuls, tellement important qu'une fortification a dû être construite pour protéger la ville d'éventuels assaillants, et oui, évidemment, ça attirait les convoitises. Au XIIe siècle, une seconde enceinte a été construite, ainsi qu'un pont pour traverser l'Ariège. Mais au XIVe siècle, l'extension de la ville est telle qu'elle sort des enceintes et de nombreux faubourgs se créent à cette époque, avec par exemple Sainte-Quitry du bout du pont et le quartier Saint-Jacques hors la porte.
Oui, alors une chapelle remarquable donc est érigée par Charlemagne, point d'interrogation. Alors j'ai eu effectivement, comme j'avais publié cette chapelle sur LinkedIn, j'ai eu quelqu'un qui a dit « Ah, sacré Charlemagne !» Donc c'est vrai que l'histoire court. L'histoire de Notre-Dame de Sabar remonte donc au temps du règne Charlemagne. Selon la légende, l'empereur aurait fait édifier la chapelle à la suite d'une apparition après sa victoire sur les Sarrasins au Pré-Lombard en 778. Au soir d'une sanglante bataille contre les morts, le 8 septembre, l'empereur Charlemagne échappe par miracle à une embuscade. Une dame rayonnante de beauté se montre alors et disparaît aussitôt, ça rappelle Lourdes, à l'aube. On laboure le sol et une statue d'airain sort de terre, Notre-Dame de la Victoire.
Dans les récits, on apprend que le cheval de l'empereur aurait refusé d'avancer et se serait cabré au moment où une dame resplendissante de lumière est apparue à l'emplacement actuel de la chapelle. Charlemagne y aurait conduit deux génisses blanches et le prodige se serait renouvelé. Le sol aussitôt creusé aurait livré une belle statue de bronze que l'on a dressée sur un autel de pierre où fut gravée l'inscription « Notre-Dame de la Victoire ». Cette même statue aurait été par deux fois transportée à l'abbaye Saint-Volusien de Foix et par deux fois elle serait revenue à Sabar. Ainsi aurait été décidée l'érection d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de la Victoire.
Alors depuis deux ans, malheureusement, à cause du Covid, il n'y a plus de pèlerinage. Il y a un très gros pèlerinage de Portugais, les Portugais qui viennent très très nombreux à Notre-Dame de Sabar. Précisons cependant qu'il n'était pas fait mention de l'édifice avant 1104, c'est déjà pas mal quand même, bien qu'à cette date, plutôt de sa construction, bien que la date de sa exacte, voilà, de sa construction reste encore inconnue. Son architecture est typique du premier art roman, légèrement fortifié d'ailleurs.
Oui, un roman plutôt tardif. Alors, il y a une dédicace, hein, parce que cette chapelle est dédiée à la Vierge et in fine au culte de Marie, au culte marial, un culte fortement réactivé au XIe siècle qui a participé à la célébrité du lieu en faisant de l'édifice une étape possible sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui encore, un important pèlerinage se tient en son sein le 8 septembre de chaque année. Et comme partout ailleurs, les chapelles dédiées à la Vierge furent particulièrement visées par les profanateurs durant les guerres de religion. Saccagée et pillée, l'église de Sabar eut son toit éventré. Elle n'a plus reçu de pèlerins pendant plusieurs années et les revenus de la cure, déjà très faibles, diminuèrent encore d'un quart entre 1608 et 1612. Les legs pieux faits à Notre-Dame de Sabar sont inexistants pendant près d'un demi-siècle et ne réapparaissent vraiment que vers 1630.
La renaissance de Notre-Dame de Sabar, c'est aujourd'hui un fait acquis. C'est durant les années 1640 que les premiers travaux de restauration de l'édifice sont entrepris à l'initiative de l'abbé Martial Rivière. En effet, l'abbé Martial Rivière est nommé le curé du faubourg de Tarascon le 3 décembre 1623 et en obtient la possession canonique le 15 juin 1624. La chapelle est alors en ruine.
En 1643, il propose à l'abbé de Saint-Volusien, François-Étienne de Collet, nommé évêque de Pamiers en 1644, de restaurer la chapelle. Ce dernier l'accepte et complète le projet en créant une maison de secours et de retraite pour le clergé. Les échevins de Tarascon proposent alors d'offrir les terrains pour la construction de cette maison. Cette donation est acceptée par la communauté de Tarascon le 9 septembre 1649.
La chapelle est restaurée entre 1637 et 1650. Quant à la maison de retraite en construction, la construction s'achève en 1650. La chapelle est rendue au culte vers 1652.
Puis arrive la Révolution française qui provoque, vous vous en doutez, de nouvelles dégradations de la chapelle. Elle sert notamment de caserne à un corps de volontaires en février 1793. En 1794, des hussards transforment la chapelle en écurie. Les bâtiments sont vendus comme bien national le 4 avril 1795 à un aubergiste. La chapelle est rachetée le 8 août par plus de 200 habitants de la ville. L'édifice est finalement classé au titre des monuments historiques le 5 juin 1846.
Aujourd'hui, il est encore possible d'admirer la statue de la Vierge de Notre-Dame de Sabar, datée de l'époque de la Renaissance. La statue de la Vierge à l'enfant en bois doré, de la seconde moitié du XVIIe siècle, ainsi que la remarquable fresque représentant le couronnement de la Vierge, peinte sur la voûte de l'abside, réalisée au XVIIe siècle. Il y a également de très très belles mosaïques au sol.
Donc en mettant en place ces travaux d'envergure, la commune de Tarascon-sur-Ariège désire garantir à ses habitants la préservation de leur patrimoine religieux. Elle sollicite ainsi une contribution de 76 217 € grâce à votre don. Permettez à la commune de poursuivre son programme de restauration en donnant évidemment à la Fondation du patrimoine.
Voilà, et donc les projets de la Haute-Vallée de l'Ariège qui le méritent. Et on se dit à la semaine prochaine, mon cher Eric.
Oui, à la semaine prochaine, Bernard, avec grand plaisir.
Merci.